Chapitre 2. Tel Aspasie se présente à la mémoire, ou plutôt, telle sa figure s'ébauche en ligne flottante dans l'imagination. Si l'on veut préciser les traits de cette figure, pour la faire passer du rêve dans la réalité, elle se décolore, s'efface, disparaît. Un portrait menteur cache l'idéale vision. En tant que personnage historique, Aspasie défie les recherches et fuit l'analyse. Elle reste dans le vague et il faut l'y laisser, car c'est seulement ainsi qu'elle est reconnaissable. Toute étude sur Aspasie, où l'on s'évertuera à compter son existence d'une façon suivie, à définir son caractère, à exposer ses idées philosophiques et morales, sera fatalement contraire à la vérité. De même, il est impossible d'indiquer son genre de beauté. La tradition n'en dit rien et les prétendues images d'Aspasie, bustes et pierres gravées, sont notoirement apocryphes. Il est permis à chacun de se représenter la Milésienne comme la plus belle des canéphores du Parthénon ou comme la plus gracieuse des femmes à l'éventail de la nécropole de Tanagra. Les témoignages que l'Antiquité nous a laissés sur Aspasie sont tout à fait contradictoires. À entendre les comiques et leurs scoliastes, et en certains passages plus tard que lui-même, Aspasie ne fut qu'une simple étaïre, un peu plus intelligente, un peu plus instruite, un peu plus habile et un peu plus hypocrite que les autres étaïres. Après avoir été courtisane à Milet, puis courtisane, et ce qui est pis, proxénète à Mégare, elle vint à Athènes où elle connut Périclès. Elle le séduisit par les moyens que ses pareils emploient généralement pour séduire les hommes. La débauche, dit le poète Cratinus, engendra pour Périclès, Junon Aspasie, la Palaque aux yeux de chien. Quand elle se vit vieillir, Aspasie, craignant que Périclès ne commençât à se lasser d'elle, se rappela son ancien métier. Elle attira dans sa demeure des courtisanes libres ou esclaves, et même des femmes mariées, pour les offrir à son amant. Par ses complaisances, Aspasie prit un empire absolu sur Périclès, le ruina tout à son aise, lui conseilla deux guerres fatales et lui fit sacrifier le bien de l'État et le repos de la Grèce à des intérêts particuliers et à des inimitiés personnelles. Selon d'autres traditions, invoquées et amplifiées par de modernes apologistes d'Aspasie, cette femme célèbre réunit les plus rares mérites. Sa vertu est au-dessus de tout soupçon et c'est seulement à cause de son origine étrangère qu'on la classe parmi les courtisanes. Elle n'a des gnathènes ou des laïs, ni les mœurs, ni les façons. Elle est poète, philosophe, orateur, homme d'État. Elle est venue de Milet à Athènes tout exprès afin d'enseigner l'art de penser et l'art de bien dire. Aspasie fut pour Périclès moins une maîtresse qu'une maîtresse d'école. Elle lui apprit la politique et l'éloquence, de même qu'elle forma Socrate à la dialectique. Sans l'incomparable Milésienne, Socrate n'aurait pas su raisonner et Périclès n'aurait pu ni gouverner ni parler. La belle oraison funèbre des Athéniens tués à l'ennemi, prononcée par Périclès la deuxième année de la guerre du Péloponnèse, est l'œuvre d'Aspasie. À ses hautes qualités de l'homme, Aspasie joint toutes les vertus de la femme. Elle est sage, économe, active, ordonnée. Elle enseigne ses devoirs d'épouse à la femme de Xénophon. Elle montre à la femme d'Ischomacos comment il faut tenir une maison. Elle a pour chaque visiteuse un bon conseil et une leçon morale. Elle est un modèle pour les matrones d'Athènes. Manifestement, on exagère les choses de part et d'autre. Mais il y a un fond de vérité, et dans les diatribes des comiques, et dans les panégyriques des disciples de Socrate. Aspasie peut être mise au rang des femmes philosophes, elle ne sort point pour cela de la classe des courtisanes.